Eh bien, nous sommes le mercredi 23 août 2023. Il sonne 11h, passé légèrement de quelques instants. Et nous rendons grâce et gloire à Dieu. Nous sommes au studio pour vous accompagner tout au long du club de la presse de ce jour. Nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes branchés sur nos différentes zones. Canal FM à Lomé ici, Radio Courtoisie à Dapan, Radio Sama FM à Baga, avec l'espoir qu'ils auront réussi à remonter leur pylône. Radio Daoul à Bassa, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio La Paix, la voix des collines à Takpamé, Radio Lumière à Anéro, et également tous les internautes de par le monde entier, par différentes applications, par radio Les Bénin ou Ebene Radio, ou encore la chaîne YouTube ou toutes autres applications. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Émission réalisée par Victor Bouekoku, Michel Tomenga et Jirod Kodjo Akucha. Émission que je co-anime avec à mes côtés Fabrice Patom Petezi du journal Le Libéral. Bonjour.
Bonjour à toi, Sass, et bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
D'un mercredi à un autre Kokou, Sylvestre Kokou Béni de la Manchette. Bonjour.
Oui, bonjour Sass, et bonjour à toutes et à tous.
Abbas Issaka de Le Mania Libéré, bonjour.
Bonjour Jalou, bonjour à tous les autres, tous ceux Canal FM.
Et comme c'est naturellement mercredi, nous parlons santé par la voix de son directeur de publication, Gadiel Kokou Gameli Tchonyadji, bonjour.
Sass, bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM.
Et aujourd'hui, nous allons aborder des sujets santé éducation naturellement. Comment le Togo entre au capital de la société Asky Airlines pour consolider le capital de cette société de transport aérien qui se veut vraiment panafricaine. Et puis, aujourd'hui encore et toujours, une abondante littérature sur la situation qui prévaut au Niger depuis la tentative de putsch, devenue coup d'état militaire maintenant, si je ne m'abuse. Nous allons en parler, mais également comment nous sensibiliser à rendre notre ville de Lomé, le Grand Lomé, avec toutes les communes des préfectures du Golfe et de Aguenyévé, regroupées au sein du district autonome du Grand Lomé. Nous en parlons avec M. Nambola Bounou et Noumodji. Bonjour M. Noumodji.
Bonjour M. Gaou.
Vous êtes chef division propriété au district autonome de Grand Lomé. Nous avons souhaité vous avoir à nos côtés pour nous parler de ce que vous avez lancé hier, à savoir cette campagne d'information, de sensibilisation pour rendre Lomé plus propre, plus coquette, plus bled, n'est-ce pas? C'est ça votre ambition?
C'est bien ça, merci pour le canal mis à disposition.
Nous allons voir comment porter cela ensemble, mais il faut d'abord être en bonne santé, me diriez-vous, Gadiel, n'est-ce pas?
Absolument.
Eh bien, commençons par cet article de santé éducation à la page 5. Quand vous nous réinvitez, vous nous invitez de nouveau à redécouvrir l'ail noir que vous présentez comme portant des vertus pour la santé de notre cœur et des reins.
Absolument, l'ail noir, c'est un processus de transformation d'un genre de l'ail blanc pour avoir l'ail noir. Donc, c'est une culture assez spéciale qui se fait. Et pourquoi on le fait? C'est pour donner une certaine concentration des vertus de l'ail. Est-ce que vous voyez? Donc, l'ail noir, d'après les études qui sont faites, a une grande concentration des vertus et cela permet de donner la santé au cœur, au rein. Cela permet de permettre à l'homme de garder son érection. Cela rend aussi fertile le couple. Donc, un certain nombre de vertus de l'ail noir, c'est une découverte. Pour ceux qui veulent avoir l'ail noir, il y a des maisons spécialisées à Lomé qui mettent ça sur le marché. Comment l'utiliser? Il y a une indication dans l'article.
Eh bien, l'ail noir que Santé Éducation présente comme un super aliment, notamment utile pour la santé du cœur. C'est un antioxydant puissant. Il contribue à réduire le taux de cholestérol. Mais comment utiliser ce ail noir pour en tirer toutes les vertus? C'est à lire dans l'article Santé éducation à la page 5.
Voilà, recommandation est faite à ceux qui souffrent de l'hypertension, ceux qui ont eu des problèmes cardiaques, ceux chez qui on a découvert un certain nombre d'atteintes au niveau des reins, d'avoir l'ail noir et de l'essayer selon les indications dans l'article, c'est un vrai complément de traitement.
Eh bien, de l'ail noir, nous passons à un super aliment naturel aussi. Il s'agit du miel. Mais le problème que vous Santé Éducation pose aujourd'hui, comment reconnaître un miel de vraiment bonne qualité?
La question se pose toujours, ça, c'est parce que il faut aujourd'hui la consommation du miel c'est a augmenté au Togo. Les gens cherchent du vrai miel pour leur santé, pour leur consommation. Mais malheureusement, ce qui se trouve sur le marché, beaucoup vantent leur mérite, mais depuis la récolte, le processus de traitement jusqu'à la mise sur le marché, la plupart des bouteilles de miel qui sont sur le marché ne valent pas la peine d'être consommées. Donc c'est important cet article. Nous sommes partis d'une expérience qui est faite au niveau de la région centrale de notre pays, le Togo, avec un certain nombre de coopératives qui ont été suivies par une organisation qui met sur le marché du vrai miel. Hein. Donc, maintenant, la question, comment savoir le vrai miel? Vous savez, avant, on nous disait, quand vous voyez des cadavres d'abeilles dans le miel, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est naturel. S'il vous plaît, quand vous voyez de tel miel, n'achetez même pas. Parce que, ouais, il y a la qualité aujourd'hui, c'est par rapport au producteur. Et aujourd'hui, on doit aller vers les marchands qui ont testé la contenance et la salubrité de leur miel au niveau des laboratoires que nous connaissons bien dans notre pays, le Togo, et qui leur donnent l'autorisation de mettre leur miel sur le marché pour la consommation. C'est absolument important. Donc, dans cet article, nous donnons toutes les indications. Vous savez, aujourd'hui, on dit, par exemple, quand vous mettez une cuillère de miel dans de l'eau et quand ça dissout rapidement, c'est du faux. Ou bien quand on met une bûchette d'allumettes, quand ça brûle, c'est du vrai. En tout cas, on a donné un certain nombre de techniques, un certain nombre d'astuces, comment reconnaître du vrai miel. C'est absolument important. Sinon, la plupart des bouteilles de miel
sur le marché sont... Alors, si je te suis bien, Gadiel, la qualité du vrai miel se mesure à la crédibilité du vendeur.
Absolument. Il faut qu'aujourd'hui, on mette sur le marché du miel travaillé d'une manière scientifique. Depuis la récolte au traitement jusqu'à la mise sur le marché, la population togolaise, mais les consommateurs ont besoin du miel de qualité parce que c'est un aliment de qualité. Hein, donc, faut pas qu'on prenne du n'importe quoi.
Gadiel, c'est que dans tous nos quartiers, on écrit sur toutes les maisons « miel pu ». Dans tel magasin, voilà. Miel pu.
C'est ça l'arnaque.
Alors, comment... Alors, maintenant, la question même, les vendeurs hein, certifiés du miel de qualité, comment pouvons-nous les reconnaître?
C'est sur leur emballage. C'est sur leur emballage. Aujourd'hui, quand c'est du miel qui est passé par un laboratoire, il y a un certain nombre d'indications qui se trouvent sur l'emballage. Nous, les Africains, on doit aussi lire les emballages. Donc, si quelqu'un est parti à la campagne, elle revient avec une bouteille de miel et dit que c'est du vrai. Attention, ça peut être du miel souillé. Et le miel souillé fait des dégâts. Fait juste le contraire de ce qu'il doit faire normalement dans l'organisme.
Merci. Nous terminons par cet article très intéressant. Quand Santé Éducation nous indique les endroits et les objets que nous devons entretenir régulièrement dans notre maison.
Très classique, ça vous savez, parce que c'est des trucs qu'on ignore dans nos maisons. C'est vrai que dans certaines maisons, on prend soin, mais il y a de ces petits objets, ces endroits que nous négligeons, mais qui sont facteurs de prolifération d'un certain nombre d'agents pathogènes, ce qui fait que vous allez voir dans la famille, on tombe souvent malade, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Cela est dû sûrement à la souillure qui se trouve à certains endroits, ou bien sur certains objets. Par exemple, les poignées de porte. Que vous voyez, c'est absolument important de les nettoyer. C'est des objets auxquels on touche. Nos portails, c'est-à-dire que la première porte de nos maisons, quand il y a des étrangers, des gens viennent, on touche à ça, mais jamais on ne nettoie. Que vous voyez, des fois, quand vous voyez certains poignées, il y a de la crasse là-dessus, vous n'avez même pas envie de toucher à ça. Donc, c'est des trucs qu'on prend soin de cela. Et puis les serviettes à la maison, le défi est toujours là parce que les gens lavent leurs serviettes 3 mois après. ce qui n'est pas vraiment conseillé. Donc, de petits conseils dans cet article. C'est des petites choses qu'on néglige, mais qui sont facteurs de maladie.
Nous allons découvrir avec beaucoup de plaisir les poignées des portes, le siège des toilettes, le sac à main, les sacs des courses, les éponges de douche, la vaisselle, la brosse à dents, les chaussures, le clavier, la souris de l'ordinateur, le téléphone portable. Mais tu n'as pas parlé des sous-vêtements, Gadiel.
Pour la prochaine fois.
Pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Gadiel Tognadi. Ce n'est qu'un avant-goût de santé et éducation qui nous rappelle de petits trucs. Santé éducation qui nous éduque à la santé.
Parlant du miel, on a un confrère, je crois que c'est le seul au Togo qui fait du très bon miel. Il s'agit de Tchabore
Ibrahima.
C'est un miel certifié. Peut-être Gadiel va le confirmer mercredi.
Tu as la preuve que Ibrahima a certifié son miel.
Si un journaliste dit qu'il a le miel certifié,
pour l'instant, il a le bon.
C'est que c'est certifié. Donc, comme les journalistes ne mentent pas.
Et ce n'est pas n'importe quel journaliste. Hein.
C'est Tchabore Ibrahima.
Non, Tchabore n'est pas ici, mais c'est le président de l'Observatoire togolais des médias
qui prend l'engagement
de nous assurer que le miel produit par Ibrahima Tchabore est du bon.
C'est du bon.
Merci. Maintenant, nous avons la santé. Nous avons notre domicile qui est propre. Alors, monsieur Enoumondji, nous avons la santé. Nous avons notre domicile qui est propre. Alors, est-ce que notre ville de Lomé est tout autant propre?
Merci, monsieur.
Le micro, s'il vous plaît.
Gaou. Merci d'ailleurs pour l'invitation. Je pense que à cette question, c'est très facile à répondre normalement quand on observe au quotidien notre ville. Mm-hmm. Lomé n'est pas autant propre qu'on l'aurait souhaité. Mm-hmm. On le dira ainsi.
Lomé n'est pas autant propre que nous l'aurons souhaité. Nous nous en plaignons. Je me rappelle de cette dame auditrice qui m'a appelé lundi pour se plaindre de toute la saleté dans nos quartiers. Elle a interpellé nous-mêmes, les ménages, les communes maintenant. Au-dessus des communes, ce n'est pas gradation forcée, mais nous avons le district autonome du Grand Lomé, lequel district a procédé au lancement hier de sa campagne de communication sur la gestion des déchets solides. Monsieur Noumondji, tout est parti d'un projet que vous appelez la troisième phase du projet environnement urbain de Lomé, PEUL 3.
Bien sûr.
En quoi consiste cette troisième phase du projet PEUL 3?
Merci, M. Gaou. Le PEUL 3, c'est un projet qui est le fruit du partenariat entre la ville de Lomé et l'Agence française de développement. Ce projet vise deux choses. La mise en place d'infrastructures de gestion des déchets pour le Grand Lomé. Et également, un certain nombre d'activités qui sont embarquées dans le pipe et dont la sensibilisation, la communication pour le changement de comportement.
Donc le projet PEUL 3 comporte trois grandes composantes. Vous en avez parlé, mais voulez-vous nous les rappeler?
Alors, d'abord, c'est principalement la réhabilitation de l'ancienne décharge d'Agonyevé,
qui est au niveau de la bassine ouverte.
Voilà, donc il y a le gros du travail va être sur cette décharge-là qui va être fermée, clôturée, et des aménagements sont prévus pour le traitement des lixivias, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez le jus des déchets, les eaux souillées qui traversent pratiquement les riverains, les maisons des riverains qui sont là. Également, quand on a du déchet stocké sur un site, il y a ce que nous appelons le biogaz qui s'échappe, qu'il faudra traiter pour plusieurs raisons. Donc, les travaux sont prévus pour adresser ces questions-là qui sont liées aux anciennes décharges. Et à côté de ça, nous avons des activités relatives à ce que nous appelons le sport et le développement. Alors, il vous souviendra peut-être qu'il y a eu déjà deux appels à projets qui ont été adressés aux structures, aux associations sportives qui ont été accompagnées à l'effet de leur permettre de mieux réaliser leur activité sportive, mais spécialement activité sportive ouverte à toutes les personnes, surtout l'espoir peut pratiquer. Mm-hmm. Et ensuite, un des grands volets hein, de nos activités, c'est aussi cette campagne de communication qui doit nous amener à aller vers l'efficience. Une fois la population, les usagers du service adhèrent aux initiatives publiques, il y a plus de chances d'obtenir des résultats attendus de ces initiatives.
Donc vous voulez parler à nous les populations, habitants du Grand Lomé, pour que nous comprenions ce en quoi consistent les différents composés de ce projet. Alors, par quelle campagne allez-vous nous porter jusqu'à notre niveau tous ces messages?
Merci, monsieur Gaou. Je pense que là, on adresse vraiment le sujet d'hier. Hein. Hier, on a lancé la campagne de sensibilisation, de communication sur la gestion des déchets. Je vais dire que la gestion des déchets, hein, que c'est, mm-hmm. c'est tout ce que nous faisons dès que le déchet naît jusqu'à sa disparition, jusqu'à son élimination. Et dans ça, il y a beaucoup de choses à faire par plusieurs personnes. Quand disons campagne de communication, ce n'est pas seulement à l'endroit de la simple, je veux dire, le simple usager du service, mais c'est aussi à l'endroit de celui qui doit offrir le service. Donc, le plan de communication qui a été élaboré il y a un moment et qui a été validé avec l'appui des représentants des communes vise justement à définir, un, les messages qu'il faut pouvoir passer, deux, les canaux de communication, par quel canal on doit passer pour atteindre quelle cible, sachant que au nombre des cibles, vous avez des décideurs, vous avez des techniciens, vous avez des entreprises, vous avez des associations ONG qui interviennent sur le secteur des déchets et naturellement le ménage. Que généralement on regarde tout de suite quand on dit sensibilisation, on voit tout de suite le ménage, alors qu'en amont il y a aussi d'autres acteurs, ce que nous appelons les parties prenantes, qui ont forcément quelque chose à revoir dans leur façon de faire au quotidien pour apporter leur contribution à la bonne gestion des déchets.
Eh bien, durant cette campagne, qu'est-ce que le district autonome du Grand Lomé attend concrètement de la population, c'est-à-dire de nous?
Alors, principalement, hein, à l'endroit de tous les toutes les parties prenantes, l'attente, c'est l'écoute. C'est l'écoute, c'est la disponibilité des uns et des autres à prêter un peu de leur temps utile à écouter les messages qui vont passer, à lire les SMS qui vont être ventilés à travers nos portables et consorts. C'est participer aux activités qui vont être déroulées durant toute la période que je rappelle qui s'étend jusqu'en juillet 2024.
Mm-hmm. Alors, par cette communication, vous attendez de nous un comportement, un changement de comportement, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Alors, quels sont les nouveaux comportements que vous attendez de nous dans le sens d'une ville de Lomé beaucoup plus propre et beaucoup plus coquette?
Alors, je vais dire globalement comme ça que ce qu'on attend des uns des autres, si je prends par exemple le ménage, le plus simple, c'est que au lieu par exemple de prendre ses déchets et de s'en débarrasser sans respect d'aucune règle, de commencer par s'interroger sur la meilleure façon de gérer son déchet à la maison déjà. Et quand on est une entreprise, par exemple, et qu'on veut exercer sur le secteur plutôt des déchets, c'est de s'interroger sur les démarches à suivre, dans quel canevas il faut s'inscrire pour pouvoir mieux réaliser son activité. Par exemple, on adresse les questions de valorisation des déchets et puis tout le monde saute sur le sujet en disant on fait de la valorisation des déchets. Mais comment est-ce qu'on fait de la valorisation des déchets pour que, en cherchant à régler le problème de salubrité, on ne crée pas d'autres problèmes tels que les questions de santé, par exemple, pour ceux qui travaillent et consomment. Donc, dans le plan de communication, il y a ceci, la conception des messages. Deuxièmement, il y a la production d'un certain nombre de supports, dont les affiches, les spots audio, vidéo. Mais surtout, il y a de la formation à l'endroit des CDQ et l'association des jeunes de quartier qui vont recevoir, disons, les messages de bonne pratique en matière de gestion des déchets et qui vont être les relais qui vont travailler avec les communes à la base. Et c'est au fil de ces formations que chaque message, de façon plus précise, adaptée à la commune en fonction de, du dispositif de collecte de déchets ou de traitement de déchets qui est mis en place par la commune vont être adaptés.
Merci. Alors, une dernière question avec vous. Entre-temps, j'étais posé une grande question. Il y avait certains quartiers qui étaient inondés par les déchets. Ceux qui collectent les déchets à domicile accusaient le district autonome du Grand Lomé parce que la décharge d'Akepe, je ne dirais pas, serait saturée, mais ne connaissait pas un bon fonctionnement. Maintenant, est-ce qu'il y a une fluidité sur tout le circuit depuis la collecte des déchets de nos ménages, des rues, jusqu'à la décharge d'Akepe?
Je peux affirmer que depuis un moment, vous pouvez vous renseigner auprès des entreprises qui apportent les déchets au CET. On a une fluidité, hein, il n'y a plus de véhicules qui attend aujourd'hui aux portes du CET. Effectivement, à un moment donné, on a connu des difficultés de fonctionnement qui sont liées à plusieurs raisons que je passe ici. Mais en tout cas, tout est rentré dans l'ordre depuis quelques semaines. On n'a pas de soucis.
Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Nabola Bounou et Noumondji. Vous êtes le chef division propriété au district autonome du Grand Lomé. Et il faut rappeler que votre district couvre effectivement les 13 communes, aussi bien des préfectures du Golfe que d'Agouenivé, n'est-ce pas?
Affirmatif.
Merci. Eh bien, il est 11h24. Nous quittons ce sujet provisoirement, mais vous pourrez toujours nous y ramener, vous les auditeurs, sur le coup de midi, avec les deux numéros que vous connaissez déjà, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75, à moins qu'un confrère, un collègue ici ait une question, un commentaire à faire à monsieur, notre invité. Oui, mais
oui, Sylvestre, juste une question. Tout à l'heure, il a parlé de la conception des affiches, et il y aura des messages et tout. Maintenant, au-delà, est-ce qu'il y aura une pratique? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de déchets, c'est une richesse inestimable pour certains. Parce que de là, on peut aller donc au recyclage, du moins c'est des plastiques et autres. Vous avez parlé également donc de la biogaz. Certains, c'est aujourd'hui par ces déchets-là qu'ils arrivent donc à Joinville-le-Dobo, parce qu'on peut passer par là pour avoir de la biogaz. Certains le font, je connais quelqu'un qui le fait d'ailleurs. Donc est-ce qu'au-delà, il y aura une formation pratique pour les jeunes dans les communes, afin qu'ils arrivent également à passer par ce canal-là pour véritablement avoir quelque chose sous la main?
Monsieur Noumondji?
Oui. Alors, merci. Hein, je pense que vous avez parfaitement raison. En fait, là, nous parlons d'une campagne de communication, comme je disais, qui s'adresse à chaque cible intervenant sur le secteur des déchets. Ce que vous dites, les formations, par exemple, je connais des ONG qui sont vraiment positionnées sur ce sujet de formation, sur les différents aspects de la valorisation des déchets. Valorisation matière comme valorisation énergétique. Il est question, par exemple, de passer plus de messages pour que plus de population, plus de jeunes intéressés par ces questions, par exemple, aillent vers ces ONG-là ou puissent bénéficier des formations de ces ONG-là. Hier, au lancement, nous étions avec une ONG qui a partagé le fait qu'elle a élaboré un guide pratique qui existe depuis, mais que nous savons, mais c'est resté vraiment restreint. Donc, l'occasion ici est donnée à travers le déroulé du plan de communication de transporter l'information disponible aussi bien sur les mécanismes en place, sur les opportunités disponibles, vers ceux-là qui peuvent en faire quelque chose. Je pense que c'est d'ailleurs le rôle de la communication, en fait.
Merci. Ceci dit, nous nous envolons dans les airs à bord d'un avion de Asky Airlines. Laquelle compagnie veut consolider son capital, et c'est dans ce sens que l'État du Togo a injecté la somme de 6 milliards de francs CFA, soit un total de 600 000 actions, chaque action valant 10 000 francs CFA. C'est l'information à la manchette de Libéral, Fabrice Pétiesi.
Oui, ça a été signé au ministère des Finances. Et, comme vous le dites si bien, le Togo devient plus ou moins désormais actionnaire au niveau de la compagnie aérienne.
Pas plus ou moins, c'est effectif.
Oui, effectif. Donc actionnaire avec ces 6 milliards qui lui donnent droit à 600 000 actions. Et je crois qu'au-delà de ça aussi, il faut comprendre que c'est quand même un combat au niveau sous-régional avec les autres compagnies, puisque tout le monde sait que le hub logistique de Ascar, c'est à partir de Lomé, et quand même le son siège aussi est à Lomé. Et aujourd'hui, face à la concurrence qui est imposée par d'autres compagnies, il était important quand même que l'État togolais préserve ce joyau-là, pour que peut-être un jour on ne vive pas le cas du fameux Air Togo qui, à un moment donné, utilisait quand même le nom du Togo, mais ne faisait pas honneur au Togo par rapport à ses prestations. Et tout cela, aujourd'hui, tout le monde sait que Ascar, même si c'est les Éthiopiens qui détiennent la plus grande part à hauteur de près de 40%, le Togo aujourd'hui, avec ses 6 milliards, est autour de
39%.
Et il y a l'Ecobank aussi qui est dedans, en plus de la BOAD. Et donc, je crois que c'est quand même une bonne initiative de la part du Togo pour de renforcer cette compagnie-là, quand même, qui porte un peu l'identité du Togo.
Merci. Donc, Togo Matin et Dunia Le Monde rappellent également que le Togo vient d'entrer dans le capital d'Ascar à hauteur de 14,39%. Basisaka, faut-il encore le rappeler ? Ascar, c'est une idée de notre compatriote Gervais Jondo, que nous avons eu le plaisir de retrouver à la signature de la convention. Un peu fatigué, mais le vieux tient toujours.
Oui, un peu fatigué, mais il tenait. Lorsque les gens l'ont vu en train de faire la signature, je pense qu'il y avait de l'émotion. Parce que après, pour faire la photo de famille, vous savez, vous avez vu comment il était assis et les autres l'avaient entouré. Je pense que c'est son idée et son initiative aussi à faire honneur au Togo, parce que créer une compagnie aérienne et l'entretenir jusqu'à ce jour, ce n'est pas facile. Mm-hmm. Aujourd'hui, le Togo a trouvé les moyens de rentrer dans ses actions. Et c'était en même temps pour donner l'exemple aussi et attirer les investisseurs privés. Oui. Puisque c'est un exemple du Togo, de donner aussi l'autorisation ou bien l'onction aussi aux investisseurs privés de pouvoir aussi prendre des parts, des investisseurs privés togolais, mm-hmm, pour qu'ils prennent part, des parts entières aussi au niveau de cette compagnie aérienne Ascar. C'est une bonne chose. Et il faut saluer également le grand monsieur, notre aîné, le grand
Jondo,
qui a eu cette initiative, qui, on ne savait pas que ça allait faire beaucoup.
Et ça prend aujourd'hui, hein, qui se veut un hub et alimenté par Ascar. Alors, le Magnan Libéré écrit que c'est un investissement stratégique que le Togo vient de faire. Sylvestre Béni, très souvent le débat ici, c'est que le Togo privatise les bijoux de famille. Nous en avons parlé, commenté, on s'est même plaint par moment. Et aujourd'hui, c'est le Togo plutôt qui entre dans le capital d'une société privée.
Non, je crois que le Togo a tout intérêt, donc à le faire. Vous savez, lorsque vous prenez la feuille gouvernementale 2025, il est dit que le Togo veut quand même faire de notre aéroport, de la plateforme aéroportuaire, un véritable hub dans la sous-région. Donc, mm-hmm, et déjà parti donc de cette idée-là d'avoir une part au niveau de Ascar, c'est bien. Bon, pour l'instant, disons environ 15%, mais je crois qu'on pourrait faire mieux. Donc, on verra dans les années à venir si le Togo peut devenir peut-être l'actionnaire principal. Pourquoi pas? Mm-hmm. En fait, ce serait donc le souhait donc de tout un peuple. Donc, vivement qu'on aille quand même sur cette lancée. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, je crois que Ascar a une belle flotte aujourd'hui avec 12 avions, je crois, si je ne me trompe pas, et qui dessert beaucoup donc de capital au-delà donc d'une dizaine. Donc, je crois que c'est véritablement, comme l'ont dit les confrères, un investissement stratégique et qui, à la longue, portera véritablement son fruit.
Merci à Fabrice. Un auditeur nous rappelle, comme tu le disais tantôt, Ascar, c'est cette l'idée de notre compatriote Jondo, mais aujourd'hui c'est Ethiopian Airlines qui est le principal actionnaire. C'est lui-même qui désigne le directeur général. Maintenant, avec un peu plus de 14% du capital que le Togo vient d'avoir, comment est-ce que le Togo pourra utiliser cela de façon efficiente, peut-être en termes d'influence sur la société?
Bon, je crois que ça, c'est le domaine des affaires. C'est le Togo fait les affaires avec Sky, naturellement. De toutes les façons, comme on l'a dit pour l'instant, ce ne sont pas les actionnaires principaux. Parlant du Togo, c'est l'Ethiopiane. J'ai cité également d'autres banques également qui sont actionnaires, notamment la BOAD et EcoBank. Et comme le disait le confrère, c'est un exemple que le Togo, que le gouvernement donne. Peut-être qu'il peut y avoir d'autres actionnaires togolais aussi qui peuvent être intéressés, puisque l'action est à 10 000 francs CFA seulement, donc pour que...
Seulement,
oui, pour que peut-être beaucoup de Togolais puissent avoir... mais est-ce que l'objectif, c'est de finir par racheter la compagnie auprès des Éthiopiens? Je ne pense pas que ce soit l'enjeu. L'essentiel, comme je l'ai dit, l'intérêt pour le Togo, c'est que la compagnie se positionne très bien, puisque son hub, c'est à partir de Lomé. Et comme je le disais, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de la concurrence. Il y a tout dernièrement une compagnie, Lise Aviation également, qui est arrivée. Ça, on sait que c'est burkinabé, même si le monsieur fait beaucoup à partir du Togo. Il y a également, sur le plan sous-régional, la Côte d'Ivoire aussi, qui est là avec Air Ivoire et tout cela. Donc, même si...
Un peu à côté, il y a également Air Sénégal.
Air Sénégal, je crois qu'Air Burkina, je ne sais pas si ça existe encore. Oui, ça existe.
Air Burkina, c'est au passé ou bien
même si...
à vérifier.
Donc, l'immeuble est là quand même. Même si... Ascaï...
L'immeuble est là, mais il n'y a plus d'enseigne.
même si Ascaï ne porte pas une marque du Togo, tout le monde sait quand même que c'est une marque de fabrique togolaise.
Merci, nous continuons avec la crise au Niger. Dans quelques jours, ça fera un mois, c'est le 26 juillet, que les militaires, la garde présidentielle, a commencé par prendre en otage Mohamed Bazoum. Et puis, dans la foulée, on a parlé de tentative de putsch. Mais aujourd'hui, à Bachisaka, est-ce qu'on ne peut pas dire, risque de journaliste, de parler ouvertement d'un coup d'État qui est intervenu au Niger?
Après, moi, on ne peut plus parler de tentative de putsch. Bien que le président Bazoum, l'ex-président
Bazoum, désormais ex-président,
a des élans de réticence pour signer sa démission. Mm-hmm. Donc, et c'est pour cela que ce qui fait parler à certains que c'est une tentative, puisque il y a la CEDEAO qui dit nous allons le rétablir dans ses fonctions, mm-hmm. et nous allons rétablir l'ordre constitutionnel et rétablir Bazoum dans ses fonctions. Mm-hmm. C'est ça qui fait dire aux gens que c'est une tentative de coup. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, je pense qu'il faut oublier ce mot tentative et parler du coup d'État et voir comment les choses vont évoluer, puisque le nouveau régime a mis en place son gouvernement, mm-hmm. en train de nommer des ambassadeurs.
Oui.
Donc, un peu partout, ce qui veut dire qu'ils disent silence, nous travaillons, mm-hmm. nous on évolue comme ça.
Voilà. Faut pas donc, que... les militaires, ils ont nommé un premier ministre, ils ont formé un gouvernement, ils ont annoncé leur projet, leur plan sur 3 ans.
Organiser un dialogue national.
Mais également. Toujours Mohamed Bazoum qui résiste, ne veut toujours pas signer de démission, même s'il reste otages prisonniers des milliers. Alors, cette contente littérature du Niger, depuis hier ou bien ce matin, nous avons appris par les canaux des médias que le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, une dizaine de jours après sa session sur le Niger, finalement vient de publier son communiqué final au terme duquel on note que l'Union africaine prend note des décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, mais l'Union africaine qui recommande la voie diplomatique pour régler ce problème du Niger, avec également les sanctions économiques prises par l'UEMOA et qui ont fermé les frontières, notamment le Bénin et le Nigeria, fermé les frontières. L'UEMOA a rappelé encore il y a quelques jours aux États membres de bloquer et les comptes de l'État nigérien et également les comptes et avoirs des chefs de la junte militaire. Alors, Sylvestre Béni, nous sommes ici au Togo, mais le Niger c'est à côté. Ça fait près d'un mois que ce coup d'État est arrivé avec toutes ces sanctions, notamment financières et économiques. Est-ce que la junte nigérienne pourra payer les salaires des fonctionnaires, des agents à la fin de ce mois d'août?
Non, écoutez, c'est une belle question. Mais si, c'est vrai qu'on par raison n'est pas raison, mais si on regarde du côté donc, du Mali, ils ont réussi. Ils ont réussi. J'ai écouté le Premier ministre malien il y a quelques semaines. Il disait que ça fait plus de 2 ans qu'ils sont sous embargo, mais ils ont augmenté la grille salariale. Aujourd'hui, ils ont dit que les produits de première nécessité sont moins chers au Mali que dans la sous-région. Ils ont cité, par exemple, le sucre qui est 2 fois moins cher au Mali actuellement où ils sont sous embargo qu'à Abidjan et au Sénégal. Donc ça veut dire que si les Maliens ont réussi, le Niger peut également réussir. C'est vrai que ça devient véritablement compliqué pour l'État, puisque si vous n'avez pas sous la main des finances et tout ça, ça complique véritablement la situation. Mais ils peuvent. Vous avez vu, d'ailleurs le Mali n'a pas fermé ses frontières, le Niger, la Guinée-Conakry non plus, le Burkina Faso non plus. Or, ce sont des voisins immédiats. Lorsque vous
notamment prenez, le Mali et Mali, le Burkina Faso.
Justement, vous voyez donc la carte du Sahel. Donc, le Mali peut continuer donc à utiliser ces cadeaux-là, ne serait-ce que pour avoir des produits encore moins chers et tout, et puis peut également diversifier ses partenariats avec d'autres pays, ce que le Mali a d'ailleurs réussi brillamment donc en allant en Iran et tout ça. Aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup donc de moyens pour continuer à payer les salaires. Le Niger peut également le faire.
Maintenant, eh bien, nous verrons d'ici la fin du mois. Hein. Ouais, mais ouais. Pour revenir à la littérature médiatique, disons à la revue de presse, hein, la manchette écrit « Transition de 3 ans au Niger, le général Tiani avance hein, pendant que le libéral écrit, lui, à la page 3, une transition de 3 ans que la CEDEAO continue à rejeter. » Fabrice.
Oui, je crois qu'à un moment donné, il faut que la CEDEAO sorte de ses illusions. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure sur les termes. Aujourd'hui, le coup d'État est consommé. Je crois que ce n'est plus la peine de chercher. Bon, c'est vrai qu'elle cherche à sauver la face qu'elle a perdue dans le cas guinéen, burkinabé et malien. Mais je ne pense pas qu'un mois après, ça puisse marcher également au Niger. Moi, je crois qu'il faut que la CEDEAO tire les conclusions. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Il faut qu'elle tire les conclusions. Et qu'elle comprenne qu'elle ne pourra jamais ramener Bazoum au pouvoir. Quand un chef est humilié de la sorte, même si on le ramène chef, personne ne va plus le respecter. Donc ce n'est plus la peine de compter sur Bazoum. Puis secondo, le schéma, on le connaît, il est classique. Hein? Le coup d'État, on condamne des condamnations de principe comme on en a. Et puis bon, après on négocie avec les auteurs du coup d'État qui brandissent une transition en s'entend sur un certain nombre d'années. Et puis bon, on passe à autre chose. Je crois que c'est le même schéma qui va se passer au Niger. Bon, cette histoire d'intervention militaire, là, moi, je ne crois vraiment pas à un seul instant qu'aujourd'hui, avec toutes les difficultés que les pays ont, difficultés socio-économiques, je ne pense pas qu'aujourd'hui un État peut oser sécuriser en plus, parce que chacun a ses problèmes. Je ne pense pas qu'aujourd'hui un pays soit capable de dresser des militaires pour les envoyer faire la guerre dans un autre pays. Ce serait créer lui-même son propre départ, s'il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays ont des problèmes de sécurité. Et donc, il vaut mieux régler rapidement la question du Niger et que chaque pays se retrouve avec ses problèmes. Et aujourd'hui, la CEDEAO, ce n'est pas la peine. Comme je l'ai déjà dit, il faut qu'elle arrête. Elle ne peut pas sauver la face dans le cas nigérien. Ça fait école, elle peut pas. Même si on a vu, d'ailleurs ils sont pas unanimes sur tout ce qui
est. Justement, la position, disons la décision ouais. prise par la conférence des chefs d'État, ne fait pas l'unanimité.
Ça fait pas l'unanimité.
Au sein même des États, voilà. Il y a un pays, par exemple le Cap-Vert, qui dit ouvertement s'opposer à
Et
cette.
Et même quand vous parlez des sanctions,
ouais.
Imaginez ces sanctions-là, tout le monde paye le lourd tribut.
Ouais.
Imaginez on dit qu'on s'en de ne plus collaborer avec le Burkina. Mais le Togo également sera asphyxié puisqu'il transite par notre port, notre territoire. Alors au niveau du Niger, nous avons quand même des routiers également qui vont faire du commerce au niveau du Niger. Donc finalement, c'est une sanction, mais tout le monde grince les dents face à une sanction.
Et justement, d'après ces deux informations, ouais. Le Bénin et le Nigeria... Oui. Qui ont fermé leurs frontières terrestres,
ils sont
également en empathie.
Mais là, si vous allez à la guerre, tout le monde sait ce que la guerre crée comme dégâts. C'est des réfugiés qui vont partir un peu partout. C'est un autre problème qu'il faut gérer également dans la sous-région. Je ne pense pas que ce soit Bazoum seul qui soit capable de diriger le Niger. Aujourd'hui, on l'a mis de côté par force. on condamne le coup d'État. Oui, ce n'est pas bon. Mais c'est déjà arrivé. Ça fait un mois que ceux qui sont arrivés sont là. Il faut prendre acte et discuter avec la junte et puis créer une situation où, bon, ils vont dire, bon, on leur donne 2 ans pour qu'ils fassent la transition et puis on passe à autre chose.
Et ainsi, on sauve la face. C'est ce que d'autres voix recommandent et peut-être s'y investissent, dont Forn Yassinbe. La Lanterne écrit par exemple ce matin, médiation discrète dans le bras de fer entre les militaires nigériens et la CDAO. Forn Yassinbe fait ses preuves. Mais la position le rôle attribué à tort ou à raison, hein, parce qu'officiellement, il n'est pas dit que Forn Yassinbe joue la médiation, mais ce rôle qui lui est attribué, s'il est salué par des organes comme la Lanterne, est plutôt vu autrement hein, par d'autres médias. La preuve, le tenant des enjeux qui écrit Espace CDAO, Forn Yassinbe souffle le chaud et le froid, pendant que Liberté écrit lui aussi, Forn Yassinbe et sa diplomatie à géométrie variable. Abba Sissaka, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est un rôle hein, qu'on estime que Forn Yassinbe joue dans le sens de la médiation, mais officiellement, ni Forn Yassinbe, ni son gouvernement, ni aucun ministre n'a publié un communiqué officiel, mais c'est ce qui se dit. Et les journaux analysent cela chacun selon sa loupe.
C'est ça, c'est chacun selon sa loupe. Mais il faut reconnaître que à une assemblée, assemblée extraordinaire de la CDAO,
conférence extraordinaire de la CDAO,
il y avait la présidente de l'Assemblée nationale qui avait exprimé clairement la position du Togo.
Non, c'est la vice-présidente. Non,
la vice-présidente.
C'était pas la
présidente. C'était du Parlement.
Parlement CDAO. Une session parlementaire. De la CDAO. Elle a exprimé la position du Togo. Et après tous les effets.
Non, la position du Togo. Peut-être c'est la position. C'est une Togolaise, mais qui exprimait la position du Parlement.
Du Parlement de la
Togolais.
CDAO.
Voilà.
Oui.
D'accord. Donc,
oui, voilà. Parce qu'elle est vice-présidente là.
Elle est vice-présidente. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe. Si Forn Yassinbe est dans la discrétion en train de mener des actions comme il l'a fait au niveau du Mali avec les militaires ivoiriens et on sait comment les choses sont
pour
passées.
Pour les ivoiriens c'était des militaires, mais pour les maliens c'était plutôt des gens à qui on attribuait de funestes intentions.
Des mercenaires.
Donc aujourd'hui, avec la position silencieuse même de Forn qui est en train de mener des actions en sourdine, on a vu que lorsque les poutistes ne voulaient même pas recevoir les membres, une des délégations de la CDAO, mais on nous a dit, et selon nos sources, c'est que Forn Yassinbe est entré dans la danse.
Forn Yassinbe aurait facilité.
Et la facilité même cette rencontre, cette mission. Mm-hmm. Et finalement, les poutistes au niveau du Niger ont pu recevoir une délégation de la CDAO pour discuter. Cette délégation a pu même rencontrer le président Bazoum. Ils ont discuté et c'est là, rien n'était sorti. Et après, on dit que ça, il y aura beaucoup d'autres rencontres qui vont continuer. C'est pour cela qu'il faut suivre la logique de cette diplomatie. Au lieu que la CDAO puisse dire que nous allons. Bon, je crois savoir que peut-être que c'est des menaces, des intimidations pour dire si vous n'acceptez pas de dialoguer,
nous allons faire ceci.
Or, Fabrice l'a dit tout à l'heure, nous ne devons rien pouvoir faire là-bas parce que il faut être une CDAO des peuples et non une CDAO des chefs d'État.
Merci. Mais officiellement, c'est une décision prise par une conférence extraordinaire des chefs d'État de la CDAO. Et dans cette décision, on note 4 pays qu'on peut appeler des va-t-en-guerre, à savoir le Niger, le Nigeria.
Le Bénin,
le Sénégal. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire.
Bon, alors, il y a Fabrice, aussi le Ghana qui joue aussi au trop fait là.
Bon, oui, disons, oui. Dont on ne connaît pas très bien la position.
Oui, parce que c'est là où ils ont pris la décision d'aller intervenir militairement, non?
Oui, mais le Ghana ne s'est pas déclaré. Alors justement, notamment, la position ou bien le rôle attribué à Forn Yassinbe fait l'objet de supputations. Et aujourd'hui, c'est Togo Matin qui écrit sur la crise au Niger. Est-ce que Alassane Ouattara serait fâché contre Forn Yassinbe?
Bon, on ne va pas se jeter dans les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous, on est des journalistes. Mais ce qui est sûr, comme vous l'avez dit, Au sein de la CEDEAO, on sait que on ne danse pas au même rythme. Il y en a qui sont un peu plus... S'il ne tenait qu'à Ouattara, on aurait déjà déclenché la guerre depuis. Ça, on le sait, puisqu'il l'a toujours dit. Quand on finit, les sessions extraordinaires, lui, il accorde des interviews. Idem pour son collègue béninois, mais les autres ne disent rien. Mais quand on regarde la façon dont les choses sont passées, vous avez vu que la position du Togo dans le cas du Mali, le Togo n'était pas partant pour les sanctions. Et à un moment donné, ils ont dû desserrer ces sanctions-là. Et finalement, on a compris que c'est le Togo qui avait la meilleure position, puisque la junte, enfin, Assimi Goïta et ses amis sont encore au pouvoir et l'économie marche. Et je sais aussi que dans le cas du Niger, ceux qui mettent en avant la guerre vont encore ramasser la gamelle dans cette histoire. Parce que la diplomatie, c'est pas les interviews à tout vent. Quand j'entends les gens dire que le Togo ne dit rien, on va dire quoi? Comme tu n'as pas encore fini de faire la cour, tu annonces déjà le mariage ou quoi? Non, il faut que tu aies au moins le résultat de ce que tu es en train de faire en coulisses avant peut-être d'en parler. On en parlera un jour. Et même quand vous prenez la situation des militaires ivoiriens au Mali, à un moment donné, c'est le Mali et la Côte d'Ivoire qui ont d'abord dit en premier que c'est le Togo qui a réglé le problème. Ce n'était pas... L'information n'était pas venue, même si on le savait. Ce n'était pas les autorités officielles du Togo qui ont dit que c'est nous qui avons résolu le problème. Mais c'est Alassane Ouattara, en s'adressant aux militaires qui revenaient, qui l'a dit, et également les autorités maliennes qui l'ont dit. Moi, je crois qu'à un moment donné, quand on est à la recherche de résultats, il faut aussi s'abstenir. C'est pour cela que je suis en train de voir aujourd'hui la situation dans laquelle les quatre que tu as cités là peuvent se retrouver, parce que eux, ils nous ont annoncé la guerre normalement telle qu'ils le disent. Je ne sais pas comment ils vont faire cette guerre, ou alors d'une manière comme on le voit dans les films hollywoodiens, on envoie un commando qui arrive et puis bon, qui casse tout et qui prend Bazoumé, repart.
Dans les films, ça marche. À ce sujet, je te rappelle que d'après les informations, Mohamed Bazoum, oui, serait toujours dans une résidence,
oui,
dans le palais présidentiel, mmh, oui, lequel palais se trouve au milieu d'une caserne militaire, ouais, hein, au centre même de la ville de Niamey. J'avoue que je ne connais pas Niamey, mais c'est ce qu'on nous rapporte.
Oui, mais c'est bien cela. C'est pour cela que je me demande comment ça va se faire. Si c'est dans les films américains, ça va marcher. Mais ici, nous sommes dans une réalité. C'est pas un film.
C'est Rambo.
Encore une fois, la position Bantanguer est loin de faire l'unanimité, même au sein des chefs d'État. Surtout quand vous allez dans l'opinion, c'est autre chose. Et puis, il y a des États également, dont notamment le Burkina et le Mali, qui ont dit se désolidariser des sanctions de la CEDEAO. Le Mali et le Burkina qui disent même que toute atteinte, toute attaque contre le Mali, contre le Niger, équivaudrait
à une déclaration de guerre
leur pays. Oui. Et puis nous apprenons que il y a quelques jours, l'État burkinabé a fait convoyer pas moins de 311 camions de marchandises au Niger,
oui,
pour dire que le Niger n'est pas si asphyxié que cela. Et c'est le confrère La Dépêche qui siffle la fin de la CEDEAO quand La Dépêche écrit « Exit la CEDEAO des fantoches, place à la Fédération de l'Afrique de l'Ouest des Patriotes ». On verra ce que ça va donner. Alors, sur un autre plan, un sujet un peu plus light, nous allons parler de l'éducation avec un sujet dont nous débattons assez souvent, le sujet de l'éducation avec les initiatives du ministre en charge du secteur, Kokoroko. Kokoroko, que la manchette met à sa manchette aujourd'hui, quand tu écris, Sylvestre Kokou, « Hausse indue des écolages dans les écoles privées », ton journal interpelle le ministre Kokoroko. Mais je te rappelle, les écoles sont des privées. Elles ont la liberté de leur gestion. En quoi est-ce que Kokoroko doit se sentir concerné par une éventuelle revue à la hausse des frais d'écolage?
Écoutez, c'est vrai que lorsqu'on est privé, quand on investit, on attend forcément un retour sur investissement. C'est normal, c'est le chemin. Mais lorsqu'on se verse dans une certaine exagération, je crois que il y a lieu que l'État véritablement siffle la fin et regarde à ce secteur-là. J'étais le lundi sur une radio sœur où un Togolais appelait, il disait qu'il est à Pécito. Et avant la rentrée, il s'est rendu donc au sein de l'établissement pour voir comment est-ce que les choses se passent. Et là, on lui dit que le collage a augmenté de 25 000. C'est-à-dire qu'ils ont mis 25 000 francs sur le collage dans une école privée. Vous croyez que cela, est-ce que c'est normal en fait? C'est-à-dire que des gens qui...
D'une année scolaire à N plus 1,
on met 25 000 là-dessus.
Et comme ça, augmentation nette.
Vous voyez que c'est totalement une exagération. Aujourd'hui, la tendance aujourd'hui, c'est que chaque année, vous prenez les écoles privées, au moins, chaque promoteur met au moins 5 000 francs là-dessus, chaque année. Et ça devient presque normal où personne ne dit mot. C'est vrai que ce sont des privés, mais ce n'est pas parce que le prix de la tomate ou de la boîte de sardines a augmenté que rapidement, eux aussi doivent augmenter les frais. Voyez-vous? Donc, il faudrait véritablement que l'État soit un peu regardant. C'est vrai qu'ils sont des privés. Ça, je n'en dis pas. Ils sont des privés. Et un privé qui investit doit forcément avoir un retour. Mais quand il y a de l'exagération, je crois qu'il faut regarder dans ce secteur-là et agir.
Il faut ajouter que non seulement il y a retour sur investissement, mais les promoteurs d'école privée ont des charges. Il y a le personnel, enseignant administratif, qu'il faut entretenir. Il y a les locaux même, beaucoup de choses. Mais l'autre aspect, à Bachisaka, est-ce que nous ne sommes pas en train d'être rattrapés par cette mesure prise par le ministre Kokoroko qui avait publié il y a quelque temps les écoles privées qui n'étaient pas homologuées? N'est-ce pas en réaction à cette mesure que ces écoles privées seraient tentées d'augmenter maintenant leurs frais?
Non, ces fondateurs d'école ne doivent pas profiter de cette situation.
Mais nous sommes dans le domaine de la spéculation.
Si on est dans le domaine de la spéculation, c'est que si le ministre est arrivé à éradiquer certains établissements qui ne trouvent pas...
Suspendre ou bien fermer.
Éradiquer.
Donc, il n'a pas utilisé un langage batangère ici.
Si il a pu le faire, suspendre certains établissements qui ne sont pas à règle, il peut aussi contrôler ces établissements-là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les parents d'élèves, comment ils souffrent avant d'envoyer leurs enfants à l'école. Et aujourd'hui, on dit que à chaque année, N plus 1, on ajoute 25 000
ou... Non, c'est pas... Ça, c'est un cas.
C'est un cas.
Oui.
Il y a parmi tant d'autres. Il y a dans d'autres écoles où nos enfants sont là. Mm-hmm. Chaque année, on augmente les frais scolaires. Et même les fournitures que vous allez acheter, c'est totalement... on vous met une liste comme ça. On ne sait pas quand les enfants arrivent. On dit que, bon, on n'a pas utilisé ceci. Donc, tout ceci, quand le ministre, il a pu mettre là... la main sur certains établissements qui ne sont pas en règle, il peut aussi intervenir pour au moins qu'on puisse réguler, qu'on ne dise pas qu'à chaque année, il faut mettre les frais scolaires. On voit les conditions de vie des parents d'élèves. Et des fois, ces écoles ne consultent même pas les associations des parents d'élèves avant de mettre les frais, d'augmenter les frais scolaires. Très souvent, les parents ils pourquoi l'existence de l'association des parents d'élèves.
Alors, je te renvoie la question. Voilà. Alors, ces associations même-là, elles jouent quel rôle?
Voilà, c'est pour ça que elles s'entendent avec les fondateurs et puis spolient les parents d'élèves. Et je rappelle que c'est des associations où on renouvelle. Je défie actuellement celui qui est le président de l'association des parents d'élèves du Togo. S'il a encore un enfant à l'école, peut-être quand vous suivez, il n'en a pas. C'est ça le drame. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas défendre les intérêts des gens alors que vous-même, vous n'avez aucun intérêt dans le domaine. C'est des gens qui sont à la retraite et qui n'ont plus d'enfants à l'école. Bon, c'est vrai que les hommes font des enfants à n'importe quel âge, mais qui n'ont plus d'enfants, mais qui disent défendre l'intérêt des parents d'élèves. Ce qui fait que finalement, ils s'entendent plutôt avec les fondateurs d'école et ils spolient les parents.
Alors, dans ce sens, pourquoi les parents d'élèves actifs qui ont encore leurs élèves dans les écoles, pourquoi ne s'organisent-ils pas pour
se faire porter démocratiquement? Je crois qu'il y a un ou deux ans, le ministre a demandé à ce qu'on réactive cela, la question des associations des parents d'élèves dans les établissements. Je crois, et généralement, c'est des élections qui se font là-bas. Mais il y a la plupart des écoles où il y a eu des parents d'élèves également qui ont haussé le ton par rapport à la manière. Parce que parfois, ça, c'est d'une manière insolente. Il y en a, c'est à la rentrée, on vous dit, c'est ça. C'est-à-dire, il y a eu des parents d'élèves quand même qui ont haussé le ton pour dire non, vous n'allez pas, même si c'est à vous les établissements, vous n'allez pas traiter les gens de façon insolente comme cela. Je crois qu'avant que ça n'atteigne le ministre, il faut que les parents, les associations des parents d'élèves jouent leur rôle. Maintenant, au niveau du ministre, oui, c'est des privés. Si tu vas dans une classe et on a mis un climatiseur ou un ventilateur et ton enfant est là et on te dit de payer cher, tu peux comprendre. Mais vous allez voir des classes où rien n'a évolué, ils n'ont même pas d'infrastructure sportive. Mais c'est-à-dire qu'on vous donne des frais qu'il vous faut. Quand vous prenez les grandes écoles où c'est cher, vous allez, parfois les élèves ne payent pas la même chose. Quelqu'un peut opter faire le chinois. On dit, ah, c'est, contrairement à tout ce qui est donné comme enseignement, si tu veux faire le chinois, voilà, ta scolarité va augmenter de tel. Mais là, il n'y a rien. C'est-à-dire que parfois on vous prend les enfants, on dit, comment on les appelle, la jardin d'enfants ou avant la. Il n'y a rien comme jeu. La maternelle, il n'y a rien comme jeu. Et peut-être à 3 ans, on force déjà les enfants à faire l'alphabet, alors que peut-être c'est pas pour ça qu'on les a amenés à cet âge. Donc tout ça, le gouvernement peut vérifier pour voir quel établissement mérite de facturer les frais de scolarité à un coût élevé. Parce que si c'est un si quelqu'un achète un lot et il a le primaire jusqu'au lycée sur un lot de terrain à Lomé
avec les clés.
Et on vient nous dire qu'il faut payer 100 et quelques mille. Moi, je crois que le gouvernement peut faire quelque chose. Merci. À ce niveau.
Alors, je rappelle que l'éducation fait partie de l'une des missions régaliennes de chaque État.
Oui.
Et nous déplorons les augmentations exponentielles des collages d'année en année. Mais à côté, Sylvestre Béni, depuis quelques années, les frais d'écolage sont gratuits dans les écoles publiques,
oui,
de la maternelle jusqu'au lycée. Mais en même temps, un constat que nous faisons, hein, le Togolais est plutôt fier d'aller inscrire son élève, son enfant, dans une école privée plutôt que publique. Voilà, voilà des contrastes également qu'il faut relever.
Non, est-ce qu'on peut parler de contrastes aujourd'hui? C'est-à-dire que tout ce qui est gratuit intéresse beaucoup. Mm-hmm. Et donc, au niveau des écoles publiques, donc l'effectif joue beaucoup. Vous voyez, un professeur qui est du privé, qui a 30 élèves devant lui, il peut multiplier les interrogations, les évaluations. Mm-hmm. Mais lorsque vous allez peut-être au niveau du privé, où vous avez peut-être 70 personnes ou 100, vous êtes limité dans cette manière donc d'enseigner ou de faire les évaluations. Vous voyez, corriger 70 copies pendant 5 à 10 fois, vous voyez que c'est une corvée. Voilà. Et que, surtout pour les professeurs de langue, par exemple, s'il faut faire répéter cela aux apprenants, c'est-à-dire que vous avez donné un mot, surtout ceux qui sont en anglais ou en allemand, vous donnez un mot, donc pour la prononciation, il faut faire répéter cela à 70 élèves. Vous voyez que vous sortez totalement éreinté, fatigué.
Et puis l'heure est finie.
Et puis l'heure est finie. Vous voyez, donc il y a tous ces paramètres-là qui font que certains préfèrent donc aller vers les privés où on a un effectif un peu contrôlé, où on peut souvent évaluer donc les jeunes, que l'encadrement aussi.
Voilà un contraste. Aussi, voilà. L'État qui fait un effort de recruter chaque année davantage d'enseignants qui sont bien formés, qui sont recyclés. L'État qui fait l'effort de construire les bâtiments scolaires. L'État qui nous gratifie des frais de scolarité. Mais parce que les écoles publiques sont bondées, nous sommes plutôt tentés d'aller inscrire nos enfants dans les écoles privées. Ouais. Bon, moi, j'avoue que je n'ai plus d'enfants en âge d'aller dans les écoles jusqu'au lycée. Mais ici, si je fais un sondage de Fabrice, Sylvestre, notre ami, notre invité, et nous m'ont dit, toi-même, Abbas, Gadiel et les techniciens derrière la vitre, est-ce que vous avez vos enfants dans des écoles publiques ou privées? Ne répondez pas. Il est midi, nous suspendons nos débats ici. Le temps que Michel adresse un clin d'œil à nos partenaires et nous rebondissons avec les auditeurs. Canal FM. Nous avons parlé de la hausse exponentielle des frais dans les écoles privées du Togo. Nous sommes revenus sur l'abondante littérature qui accompagne la situation militaro-politique au Niger. Nous avons parlé avec le chef division propriété au district autonome du Grand Lomé, comment nous sensibiliser, nous parler pour nous éduquer à des comportements et rendre notre ville plus propre et plus coquette. Nous avons parlé également des recettes de santé et éducation. À présent, la parole est à vous. Nous vous écoutons. Premier auditeur en ligne, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Bonjour, le plateau.
Bonjour, c'est monsieur
Mohamed.
Monsieur Mohamed.
Oui.
Ok, nous vous écoutons.
Vous avez bien parlé.
Merci.
Allez, je crois que dans l'école que j'ai vu que les enfants vont, j'ai trois enfants.
Vous avez trois enfants?
Ils sont bons d'emblée. Moi, ma soeur, très bien.
Ok, donc comme les enfants sont intelligents, félicitations à vous.
Je suis au chef de là.
Oui.
On augmente 5 000. Mais la cour est sablonneuse. On n'a pas baptisé.
On augmente l'écolage, mais la cour même, ce n'est que du sable. On n'a même pas badigeonné les murs.
On cherche. Là-haut, on va faire support à quelque part.
Dans la rue, souvent.
Il n'y a pas, lieu de support dans, dans la tête. Cette année, ils ont augmenté 10 000.
Cette année, 10 000.
J'essaye au chef de 10 000. Le sixième en terminale.
Ok, merci monsieur Mohamed qui donne le temps et qui passe le témoin au suivant. Bonjour.
Allô, ça c'est bonjour.
Oui.
Joshua.
Joshua, oui, ça fait un petit moment.
Oui, vraiment, c'est pour réagir par rapport aux frais scolaires dans les écoles privées. Franchement, ça s'augmente, mais la condition des enseignants est minable. Je donne un exemple concernant un ami que je connais qui a licence et qui travaille du collège jusqu'au lycée, mais qui a au moins 31 heures par semaine.
Pardon?
31 heures.
31 heures par semaine.
Par semaine, et qui gagne 40 000.
Et il arrive à tenir? Il arrive à tenir?
Il n'a pas le choix.
Si, non, non, Allah n'est jamais obligé, hein, on a toujours le choix.
Exactement. Donc, merci beaucoup. Si l'État aussi peut être un peu regardant aussi, ça va nous aider.
Merci. Fabrice, tu imagines, quand tu fus encore enseignant, 31 heures de cours par semaine?
Ah ouais, ben ça voudrait dire que tu vas largement au-delà de 8 heures de cours par
semaine. Et tu gagnes autour de 40 000.
40 000, ouais, c'est un peu cela. Et quel va être ton rendement? Ça, c'est la question.
Merci à Joshua. Un troisième auditeur, bonjour.
Allô, bonjour, monsieur. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Chaz.
Bonjour.
Monsieur Kossi de Sawado.
Kossi de Sawado, oui.
Oui, je voudrais rebondir par rapport au cas du Niger. Monsieur Sass, moi je veux dire quelque chose, hein, même si ça blesse certains, ils n'ont qu'à m'exprimer. Je vois que ce qui se passe au Niger, les militaires n'ont pas raison. Parce que si vous prenez le pouvoir de quelqu'un, pas de vous, monsieur Sass, pourquoi garder cette personne-là? C'est là où les militaires ne sont pas en train de bien faire. Moi, je propose qu'ils laissent M. Bazoum partir. S'ils veulent l'expulser, ils n'ont qu'à l'expulser. Parce qu'après tout, si nous disons que le coup d'État n'est pas bon, mais la guerre aussi n'est pas bonne, qu'est-ce que nous voulons maintenant? Si nous savons que ce que les militaires du Niger ont fait est bon, alors en faisons autant chez nous. Mais ne voyons pas la chose et ne pas dire ce qui est vrai. Parce que la CDAO se trouve dans son rôle aujourd'hui, qui ne peut pas voir la case de ton frère, de ton voisin brûlé, et c'est clair. Maintenant, les militaires tiennent le câble et ils disent non, que ce qu'ils ont fait, que c'est légal, que c'est bon, et tout, et tout, et tout. Nous avons vu des preuves, nous avons vu déjà le Mali, le Tchad, et tout, là. Qu'est-ce qui va là-bas? Rien ne va. C'est du bluff.
Merci.
Donc, moi, je dis que les militaires nigériens n'ont qu'à libérer M. Bazoum. Je pense que s'ils libèrent M. Bazoum aujourd'hui, la CDAO va désarmer. La CDAO ne va plus s'adresser à eux.
Peut-être que oui, mais on a vu un peu partout, hein, au Mali, en Guinée, au Burkina et au Niger, les militaires qui reprochent au président est renversé, entre autres, de la mauvaise gestion. Avec tout ce que on leur reproche, élections traficotées ici, constitution, élections fraudées, tout ceci. Aujourd'hui encore, c'est jour d'élection au Zimbabwe. Alors, dans quelles conditions ces élections vont s'organiser? Dans quelques jours, ce seront élections présidentielles, législatives et je crois locales au Gabon. Est-ce que ce sont des élections vraiment claires? Alors, un président élu, réélu dans ces conditions, si demain on lui fait un coup d'État, qu'est-ce qu'on dit? La question reste suspendue. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Armand.
Armand, oui.
Bonjour, le plateau. Et je vais rebondir immédiatement sur votre conclusion. Et, c'est-à-dire, ça doit faire réfléchir nous, les Africains. Parce que, au fait, le débat doit s'instituer au niveau de nos intellectuels. Parce que, à chaque fois, périodiquement, il y a des scrutins et ces scrutins engendrent des pertes en vie humaine, des dégâts. Est-ce que nos pays avancent ou bien nos pays reculent? Aujourd'hui, quand on fait un peu le bilan depuis 1990, surtout dans la zone francophone, qu'est-ce qui a vraiment avancé en termes de démocratie?
Autrement dit, vous souhaitez que nous évaluions notre démocratie une génération après?
Oui, c'est normal.
Oui, c'est important.
Parce que tout ça ne donne rien.
C'est important. Ce sera une voie également pour prévenir d'autres crises. Mais je pense qu'on doit, autant nous condamnons par principe les coups d'État militaires, autant également les coups d'État constitutionnels, les coups d'État électoraux, toutes les fraudes qui font que la même personne est aux affaires durant des décennies, ça pose problème. Et encore, quel est le bilan socio-économique de nos différents chefs d'État en Afrique? Voilà un débat que nous pourrons avoir le courage de poser. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Abdel.
Abdel.
Oui.
Diminuez un peu le bouton de votre poste récepteur pour qu'il n'y ait plus de, pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'écho.
Oui, mais chez vous, les gens partent chez vous. J'attends que d'autres voient là.
C'est pas chez nous.
Ok.
Oui, allez-y, Abdel.
J'aimerais bondir également sur le Niger.
Mm-hmm.
J'aimerais vous féliciter, vous les journalistes togolais, pour le travail que vous abattez. Le travail que vous êtes en train d'abattre est très, très, très important pour qu'on arrive à la vraie indépendance de l'Afrique. Alors, j'aimerais aussi féliciter la position des autorités togolaises, c'est-à-dire la position du Togo. Et pour la première fois, à l'unanimité sur un sujet aussi important, j'ai constaté que tous les journalistes, à part quelques une ou deux personnes, ont la même position, la même façon de voir la situation du Niger. Et c'est très important. Le Togo est en train de jouer un grand rôle sur le plan communicationnel. C'est-à-dire, il y a les actions politiques et les actions au niveau de la communication. Et je pense que la guerre au niveau de la communication se passe au Togo. Et ça, moi, en tant que citoyen, je suis très fier de vous, les journalistes togolais.
Merci beaucoup.
Alors, j'aimerais dire à Bazoum, la position dans laquelle Bazoum se trouve actuellement est la meilleure position pour lui.
Et pourquoi?
Parce que, vous savez, Bazoum, il en sait beaucoup depuis le Mali et depuis la Libye jusqu'au Niger. Et actuellement, la guerre qui se mène n'est pas la guerre pour libérer Bazoum. Non. Mais c'est la guerre d'intérêt.
Mm-hmm.
Téléguidée par l'Occident à travers nos chefs d'État corrompus.
S'il vous plaît, Abdel.
S'il vous plaît, Abdel.
Nous avons un principe au Club de la Presse. Nous tenons, nous avons des égards à l'endroit de toutes les personnes dont nous parlons.
Alors là, je m'excuse. Donc, comme je le dis, téléguidé par les chefs d'État africains. Si Bazoum, c'est-à-dire les autorités actuelles du Niger, libèrent Bazoum, je vous assure que ce dernier sera même neutralisé ou éliminé parce qu'il en sait trop.
Merci.
Donc la position dans laquelle il est actuellement la meilleure position pour
c'est selon
la
vous. Sécurité. Merci, sécurité. C'est intéressant, mais souffrez que nous passions à d'autres auditeurs qui attendent en ligne aussi. Bonjour.
Monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Je voudrais rappeler aux autorités, franchement, ces écoles privées peuvent augmenter. Mais il faut voir l'état de ces établissements-là. Il y a un autre qui vient de dire,
oui.
Il n'y a même pas un stade de sport. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il augmente à 10 000.
Mais à ce niveau-là, Sylvain,
oui.
Vous, le parent qui allez inscrire votre élève dans une école, est-ce qu'il n'y a pas un minimum que vous attendez de cette école?
Effectivement, on attend un minimum. Mais si l'école est proche de vous, vous voulez que l'enfant aille pour ne pas...
Il y a une question de proximité.
Oui.
Mm-hmm.
Vous serez obligé. Mais okay. il faut voir l'état de ces établissements. Il y a Kokoroko qui avait fermé certains.
Oui.
Certains établissements. Il faut voir dans ce cas. L'autre qui vient de parler, il faut qu'il indique l'établissement là pour qu'on puisse aller vérifier l'état de cet établissement.
Merci beaucoup, Sylvain Agbayi. Michel, dans le temps de recevoir un dernier auditeur. Alors, le tout dernier aujourd'hui, bonjour.
Oui, M. Sav.
Oui.
C'est M. Kassi de Saguado qui vient clôturer l'émission.
Ok.
Je voudrais dire par rapport aux écoles privées que, M. Sav, au Togo, tout est politisé.
L'école privée aussi est politisée?
Tout est politisé. Politisé.
Ah bon?
Allez-y demander l'école là qui a augmenté les collèges à 25 000. Renseignez-vous de quelle école il s'agit, à qui appartient cette école-là.
Non, justement, vous ne savez pas de quelle école il s'agit, oui. Avant de tirer votre conclusion.
Non, je sais de quoi je parle.
En tout cas, moi, je ne sais pas encore.
Donc, ce que M. Petit a dit, c'est vrai. Il faut voir d'abord l'infrastructure de l'école. L'État n'a qu'à prendre ça en charge. Ce que vous êtes en train de dire sur le média là-bas, que M. Kokoroko prenne ça en compte, que prochainement, qu'on ait le résultat de ce qu'on vous aurait dit aujourd'hui.
Merci, merci à vous, Monsieur Kossi de Sabado. L'heure nous impose de nous arrêter ici aujourd'hui. Monsieur Noumodji, aucun auditeur ne s'est intéressé à vous, alors qu'il s'agit de notre cadre de vie dans la ville de Lomé. Alors, voulez-vous nous rappeler, en une minute, ce pourquoi vous êtes passé à nos côtés au Club de la Presse aujourd'hui?
Merci, Monsieur Agaou. Je pense qu'il y a ce sujet du Niger qui
suscite beaucoup, tellement de passion.
Exactement, donc c'est ça. Alors, je rappelle que notre passage aujourd'hui vise à inviter les uns les autres à réserver, un certain accueil à nos collègues ou à nos partenaires qui vont les approcher dans le cadre de notre campagne de sensibilisation, de communication sur la gestion des déchets. Je voudrais remercier Canal FM et toutes les autres presses, tous les autres organes, je vais dire, de presse qui vont nous accompagner parce que nous avons tout un programme avec vous. Et je voudrais dire que c'est une bataille que chacun de nous doit pouvoir mener à son niveau. La question des déchets doit être considérée comme un ennemi de la nation. Et chacun a sa contribution à apporter. Qu'on soit de la presse, qu'on soit élève, qu'on soit médecin, enseignant, politicien, religieux, chacun a quelque chose à apporter. Et à travers cette campagne de sensibilisation, on va plutôt partager les bons messages qu'il faudra pouvoir repliquer, diffuser le plus largement possible. Et c'est à ça qu'on invite les uns et les autres.
Merci. Nous sommes là. C'est notre travail au quotidien. Maintenant, si vous pensez à nous, si vous intégrez les médias, que ce soit les journaux écrits, les radios, les télévisions, les médias en ligne, si vous nous intégrez à votre programme, je pense que ensemble, on est très fort et on va très loin. Ça, vous le savez.
Vous avez une place de choix. Là,
merci beaucoup. Merci. Eh bien, chers confrères, une minute à chacun pour votre conclusion, peut-être pour réagir à un auditeur ou bien pour rappeler un point important. Ou bien pour un avis qui vous tient à cœur. Kwaku Sylvestre Béni, tu as élu pour commencer.
Quelqu'un m'a interpellé. Ah bon?
L'école où on fait 25 000.
Non, écoutez, on ne peut pas donner le nom de l'école. Non. La zone, le monsieur a appelé une radio et il a dit qu'il est à Pécito. À Pécito, c'est grand. Donc, allez-y vérifier.
Merci. Maintenant, toi, même ton mot de conclusion.
Non, écoutez, je n'ai pas de mot de conclusion, sauf que je voulais encore revenir sur les feux tricolores. Véritablement, parce que sur la zone d'Agomé, il y en a.
Le monsieur du Daglé, là.
Oui, il est là.
Ça tombe bien. Et lui-même opine de la tête.
Ça tombe bien. Donc, pensez à cela. Sinon, sur cette voie-là, sur la route d'Agomé, je crois, chaque semaine, au moins, on a deux ou trois accidents. Hein, parce qu'il y a les feux qui ne marchent pas. C'est important donc de discuter avec vos instances et de trouver une solution à cela.
Merci. Pas Tom Sylvestre.
Oui, je vais intervenir rapidement sur deux points. Sur le cas du Niger, je voudrais juste faire une mise au point pour dire qu'il faut qu'on se comprenne. Je crois que quand on dit à la CDAO de tirer les conclusions de la situation au Niger pour prendre de bonnes décisions, ce n'est pas pour dire que le coup d'État est bon. C'est-à-dire qu'un problème est né. Il faut trouver une solution. Le problème nigérien est là. Le coup d'État dure depuis un mois. Mais la CDAO est encore dans des gesticulations qui n'apportent aucune solution. C'est pour cela que nous disons qu'il faut qu'ils tirent les conclusions pour comprendre que pour Bazoum, c'est fini. Et il y a un auditeur qui disait que pourquoi la junte ne libère pas Bazoum. Ben voilà, tu es... Je sais pas, c'est comme c'est sur un ring de boxe. On te donne un coup, tu es tombé, mais tu veux pas renoncer au combat. Si tu ne renonces pas au combat, on continue toujours par te coincer jusqu'à ce que tu dises. Il est là, il dit toujours qu'il est le président. On peut pas le laisser. Donc le jour où il dira oui, j'accepte, je suis plus au pouvoir, on va lui trouver une villa à la cité où il y a, puisque c'est la destination.
Ça, c'est le point numéro un.
Le second, pour les établissements scolaires privés, j'ai dit ici qu'il y a des écoles où les gens payent des millions. Et quand vous y allez, vous comprenez que oui,
ça vaut la peine.
Et donc, il y a, dans la vie, on dit les cinq doigts ne sont pas égaux. Et donc... à vous de savoir à quel niveau vous y allez. Mais lorsque vous êtes là, vous augmentez les prix en vous comparant à des gens, alors que vous n'avez pas investi la même chose, c'est là où nous disons qu'il faudra que ça cesse. On ne peut pas construire une école sur un lot de terrain, de la maternelle jusqu'en terminale, sans aucune infrastructure sportive, sans rien. Et on va dire que dans cette école-là, on paye... cent et quelques mille. Moi, je suis... Au même moment, le salaire de l'enseignant n'évolue pas.
Merci, Abba Sissaka.
Oui, moi je voulais revenir sur la fille tricolore.
Oui.
Le ministère a lancé une opération.
Quel ministère ?
Le ministère de la Sécurité.
Oui.
A lancé une opération fille tricolore. Mais il faudrait que ces fille tricolore existent bel et bien avant qu'on ne parle d'opération fille tricolore. Mm-hmm. Il y a dans beaucoup de coins, dans beaucoup de carrefours, les fille tricolore ne travaillent pas. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure.
Les policiers gendarmes viennent remplacer les feux.
Oui, ils remplacent les feux tricolores. Mais c'est, on dit si vous violez le feu tricolore, le feu rouge, on vous arrête. Il n'y a pas feu rouge pour que vous violez. L'autre question, c'est que comme la Dagle est avec nous,
oui.
Qu'on puisse prendre langue avec les autorités compétentes pour qu'on puisse remettre en place les feux tricolores un peu partout. Surtout sur la nouvelle voie, qui est, même si elle n'est pas encore ouverte,
oui.
Si elle n'est pas encore, comment on dit ça,
réceptionnée,
elle est bien construite pour que on puisse nous remettre les feux tricolores là-bas.
Jusqu'à Zangara. Et puis, non, plutôt de Atikoumé jusqu'à Zangara. Et puis sur la route de
Kassambaka. De Kassambaka. Jusqu'à Zangara.
Oui. Monsieur de Dagle, notez ça s'il vous plaît. Je ne sais pas à quel niveau vous pouvez intervenir. Il y a trop d'accidents, trop de dégâts sur la route là, et puis Segbeig aussi.
Il y a trop de dégâts.
Merci.
Donc je vais donner un carton vert à ces forces de sécurité qui sont au niveau des feux rouges, qui se débattent tant bien que mal pour faire respecter le port de casque aussi aux passagers. Donc,
oui, mais en même temps, hein, c'est usant. Hein.
C'est usant.
Hein, ces dames et messieurs, ils ont beau être policiers, gendarmes. C'est quand même des humains. Ils sont là-bas du matin, debout jusqu'au soir, sous le soleil. Heureusement, le soleil ne tape plus très fort ces derniers temps, mais il fait frais. La poussière, les gaz d'échappement qu'ils respirent du matin jusqu'au soir, je ne sais pas comment ils sont renouvelés. Mais il faut les aider vraiment à bien les aider.
Et revoir aussi le statut de la police.
Merci beaucoup.
Ça fait des années.
Le, statut, le statut est déjà voté. Maintenant,
il faut entériner.
Daniel,
je voudrais aborder dans le sens de l'article de Sylvestre par rapport à ce que le ministre Cocoroco peut faire en matière d'augmentation de l'école au niveau des privés. Le ministre est dans ses droits pour faire une consultation au niveau des privés pour que les coûts d'écolage ne montent pas d'une manière anarchique. C'est absolument important. C'est à sa portée. En tant que ministre de l'enseignement, il peut le faire et obtenir des résultats. Bon, maintenant, pour je vais finir par charger aussi le technicien qui est là par rapport...
Non, c'est un chef division.
Un chef division. Mm-hmm. Ok, d'accord. Toujours la route de Palimé.
Oui.
Par moment, les feux sont là. Et puis après, demain, les feux ne sont pas là.
Oui.
Pour les feux tricolores, on n'en parle pas. On plaide toujours pour que quelque chose soit réellement fait rapidement parce que, comme Sylvestre l'a dit, il y a toujours des incidents. Hein. Hier, la lumière n'était pas là. Il y a eu plusieurs accidents sur la route. On plaide toujours pour que...
Merci à vous. Le Club de la Presse en solidarité nous décerne un carton vert à cette organisation Solidarité Fertile qui, depuis quelques jours, mène une campagne de consultation foraine médicale en stomatologie et en ophtalmologie. Hein, des médecins qui parcourent les campagnes un peu partout pour aller consulter nos parents. C'est une œuvre humanitaire que nous saluons en souhaitant que Solidarité Fertile et bien d'autres également puissent investir dans l'humain. C'est ensemble que nous serons plus forts, FORTS, et que nous irons loin. C'est fini aujourd'hui avec l'espoir que le Club La Presse, nous nous retrouvions, nous au studio, les techniciens et vous également, demain jeudi, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.